Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quels sont les motifs de l'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a poussé le Verbe éternel à se faire chair et à s'incarner, à devenir homme pour nous? Étudier les motifs de l'incarnation, c'est étudier ce que nous devons demander à Dieu, ce que nous devons chercher auprès du Christ, ce que nous devons chercher à obtenir lorsque nous serons au pied de Jésus-Christ en compagnie de la Sainte Vierge à la crèche. Il y a trois grandes catégories de motifs. Tout d'abord, par là, le Christ développe nos vertus théologales. Deuxièmement, il est un modèle pour la vie chrétienne et donc pour nous tous. Troisièmement, il est vainqueur du démon et du péché. Et saint Thomas d'Aquin termine par une très belle considération sur la restauration de l'homme qui va très bien avec les études que nous avons faites jusqu'à maintenant sur l'âme humaine, la place de l'homme dans l'humanité, parce que cette place qui a été détruite, perdue par le péché, le Christ va non pas faire autre chose, il va au contraire la restaurer d'une façon plus admirable qu'il ne l'avait instaurée, et c'est tout le service du Christ roi qu'on ne se lassera jamais de toujours mieux étudier pour mieux le mettre en œuvre, mieux l'étudier parce que le diable et la révolution, les révolutionnaires qui sont les complices du diable, savent très bien la théologie, ils la connaissent, ils savent très bien qu'il y a là quelque chose d'essentiel pour la vie humaine, et donc ils ne se sont pas contentés de nous empêcher de servir le Christ roi, ils ont fait en sorte que la doctrine soit perdue, que les motifs de la doctrine, les raisons profondes de la doctrine soient perdues, de la doctrine du Christ roi, je veux dire. Ce qui fait que maintenant, on en arrive à ceci, que servir le Christ roi, c'est avoir des vertus personnelles, et on a complètement oublié, je veux dire, le monde moderne a complètement oublié ce qu'est le service de Christ roi, mais nous sommes des hommes modernes, et même nous, même les traditionalistes, nous avons un examen de conscience à faire là-dessus. Première partie, les vertus théologales. Vous vous rappelez, mes bien chers frères, théologales, ce sont celles qui nous attachent directement à Dieu par la foi, l'espérance et la charité. La foi devient plus assurée parce que saint Augustin nous dit « Pour que l'homme marche avec plus de confiance vers la vérité en personne, le Fils de Dieu, en assumant l'humanité, a constitué et fondé la foi. » C'est-à-dire qu'il a rendu la foi beaucoup plus concrète, si l'on peut dire. C'est une manière de parler, parce que la foi restera toujours sur ce que nous ne voyons pas, puisqu'il s'agit du mystère divin. Malgré tout, ce mystère divin, les apôtres l'ont vu, et saint Jean est absolument étonné, et je me rappellerai toujours, je ne suis pas le seul, j'en suis sûr, nous avons été nombreux à entendre Mgr Lefebvre nous prêcher sur notre Seigneur Jésus-Christ dans des conférences spirituelles, et il a commencé la première conférence ainsi, en citant saint Jean, « Celui que nos yeux ont vu, celui que nos oreilles ont entendu, celui que nos mains ont palpé, le Verbe de Dieu, c'est lui que nous vous annonçons. » Et oui, les apôtres, le soir de la résurrection, parce qu'ils étaient troublés, notre Seigneur s'est mis à leur portée et il leur a permis de les toucher et même de palper en leur disant « Voyez, est-ce que des esprits, des fantômes ont une chair et des os comme j'en ai ?» Cela ne supprime évidemment pas la foi, parce que la nature divine et donc la personne divine de notre Seigneur, nous ne la voyons pas, mais nous voyons sa nature humaine qui est conjointe, qui est unie profondément à la nature divine, et cela nous aide considérablement à croire ce que Jésus-Christ nous enseigne. Donc, première chose à demander au pied de la crèche, la foi. Eh oui, le bon Jésus dans la crèche, c'est Dieu trois fois saint. Je crois, Seigneur, mais augmentez ma foi. et je vous ferai prochainement un sermon sur les fruits de la foi. Deuxième vertu théologale, vous vous rappelez, mes bien chers frères, l'espérance. L'espérance qui n'est pas un simple espoir, qui est une certitude. Vous allez me dire, mais pourquoi appelle-t-on cela espérance si c'est une certitude? Parce qu'il s'agit de choses hors de notre portée, qui normalement devraient nous faire désespérer de les atteindre, et que Jésus-Christ les a mises à notre portée, et c'est pour cela que cette vertu d'espérance nous apporte en même temps une certitude. L'espérance s'appuie sur deux choses. La première, la puissance de Dieu, Dieu qui est puissant, et la seconde, Dieu qui vient à notre secours. L'incarnation va nous montrer à quel point Dieu vient à notre secours, à quel point il nous aime. Nous sommes persuadés que Dieu vient à notre secours parce qu'il nous aime. Plus nous voyons qu'il nous aime, plus nous en sommes persuadés qu'il vient nous aider. Saint Augustin toujours. Rien n'était aussi nécessaire pour relever notre espérance que de nous montrer combien Dieu nous aimait. Quel signe plus évident pouvons-nous en avoir que l'union du Fils de Dieu à notre nature? Et saint Thomas d'Aquin précise, par là notre espérance est soulevée au plus haut point, au maximum, le plus haut point. Donc, nous devons demander à Dieu de développer en nous l'espérance. Il le fera si nous nous mettons au pied de Jésus-Christ à la crèche. Et c'est cela que nous devons chercher, c'est cela que nous devons méditer, que nous devons chercher à la crèche, à avoir des grands désirs, à avoir l'audace dans la recherche du royaume de Dieu, parce que si nous manquons d'audace, c'est parce que nous manquons d'espérance. Si nous avions une espérance ferme, nous n'hésiterions pas à être audacieux quand il s'agit de conquérir le royaume des cieux et de le donner également au prochain. Enfin, troisième vertu théologale, c'est la charité. C'est peut-être celle qui est la plus communément citée, la plus connue, et pourtant, je crois que la charité est assez mal connue. Parce que l'amour est mal connu, et puis parce que l'amour se porte difficilement vers Dieu, qui est très élevé. Eh bien, le Christ, en venant sur la terre, commence par nous montrer ce qu'est l'amour. Après ça, il va nous en parler, bien sûr. Puis la théologie va développer l'enseignement de notre Seigneur de manière à nous faire entrer profondément dans le mystère. C'est ce en quoi je vous accompagne par les sermons à partir de saint Thomas d'Aquin. Mais commençons par voir. Par voir le petit enfant qui nous aime. Saint Augustin toujours. Quel plus grand motif y a-t-il de la venue du Seigneur que de nous montrer son amour pour nous? Et il ajoute plus loin, « Si nous avons tant tardé à l'aimer, maintenant au moins ne tardons pas à lui rendre amour pour amour. » Je vous invite, mes bien chers frères, lorsque vous serez au pied de la crèche, au pied de notre Seigneur dans la crèche, à chercher à voir ce que Dieu aime, ce que Jésus-Christ aime, à comprendre ce qu'il aime, de manière à aimer ce qu'il aime, à aimer les choses qu'il aime, parce que, vous savez, en raison du mystère, ce sur quoi se porte l'amour de Dieu, c'est difficile à pénétrer. Alors nous voyons toujours que Dieu a aimé les hommes. Les modernistes vont encore plus loin. Dieu aime le pécheur tel qu'il est. C'est un peu fort, ça, et un peu faux, même complètement faux. Dieu aime le pécheur pour le rendre saint, et non pas malgré son péché. Ça, c'est une position protestante. Aimer le pécheur dans son péché, tel qu'il est, c'est une position protestante. Je pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de rendre amour pour amour. Mais sans aller jusque-là, nous avons quelquefois une conception assez égoïste, il faut bien le dire, de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime, et alors, en regardant l'amour de Dieu, il y a un risque que nous nous regardions nous-mêmes. Oh, je sais bien, vous allez me dire, mais nous regardons le Christ. Oui, mais il faut aller plus loin. Il faut pas seulement aimer le Christ, il faut aimer ce que le Christ aime. Et si nous cherchons à entrer un peu dans le mystère de l'amour du Christ, nous découvrirons très vite que ce que le Christ aime le plus, c'est la gloire de son Père, c'est son règne à lui, c'est le triomphe de l'Église, c'est la conversion des pécheurs, c'est tout ce qu'il a fait dans l'incarnation, pas seulement pour nous, mais pour tous. Nous découvrirons également que Jésus-Christ aime la croix, parce que la croix est le plus grand acte d'amour de Dieu pour nous, parce que c'est l'acte par lequel il restaure la vraie charité des hommes envers son Père. Mais là aussi, pour bien comprendre le mystère de la croix, il faut entrer dans la découverte et dans l'estime de ce que Jésus-Christ aime, les choses qu'il aime. Si nous fonçons directement au mystère de la croix, nous risquons très fortement de ne pas le comprendre et par conséquent de ne pas entrer dans ce mystère. Et donc c'est lors de l'incarnation de Jésus-Christ, lors de sa naissance dans la crèche, qu'il faut pénétrer dans l'objet de l'amour de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ aime, et par là, quand le moment sera venu, il nous sera très facile d'aimer la croix. Deuxième partie du sermon, Jésus-Christ vient pour être un modèle pour nous. Saint Augustin. L'homme que l'on pouvait voir, il ne fallait pas le suivre. Eh oui, depuis Adam. Mais il fallait suivre Dieu que l'on ne pouvait pas voir. C'est donc pour donner à l'homme un modèle visible par l'homme, et que l'homme pouvait suivre, que Dieu s'est fait homme. Cela mérite un long développement. Contentons-nous de remarquer deux exemples assez frappants à la crèche. Premièrement, la pauvreté, deuxièmement, l'humilité. La pauvreté, et ce que le Christ va nous montrer, c'est la puissance de la pauvreté. Nous voyons toujours la pauvreté d'une façon négative, quelque chose de triste, quelque chose d'éprouvant, qu'il faut subir malgré tout parce que c'est ainsi et que Dieu le demande, et en réalité, la pauvreté est une source de grande richesse parce qu'elle laisse toute la place à Dieu. Et plus l'homme se fait riche, plus il doit être pauvre. Or, notre monde moderne est un monde qui a développé et surdéveloppé la richesse et même le luxe, un luxe à deux sous, qui n'en vaut pas la peine. Là aussi, le démon est malin. Quand on voit que le monde allait à sa perte avant le déluge, parce qu'ils étaient pris par l'amour du monde, les hommes étaient pris par l'amour du monde, alors qu'en est-il aujourd'hui? Et si nous voulons ne pas être noyés par le nouveau déluge que Dieu a prévu, et rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, ce monde moderne ne sera pas châtié, il est lui-même le châtiment. Il est bien possible qu'il n'y ait pas un déluge, oui, il y en aura un pour punir les hommes, mais il y a déjà le déluge des eaux qui nous noient, les eaux de la richesse, les eaux des biens matériels, les eaux de l'informatique, etc. C'est un véritable déluge qui nous engloutit. Or, quelle puissance apporte-t-il? Non, il n'y a que Jésus-Christ, de la crèche à la croix, qui soit puissant parce qu'il est pauvre. Et il est humble. La pauvreté et l'humilité vont facilement ensemble. L'humilité aussi consiste à laisser toute la place à Dieu. Le fondement de notre humilité, c'est que tout vient de Dieu et que rien ne vient de l'homme en tant que tel. Et c'est patent, évident pour notre salut éternel. L'homme se perdait, le salut lui a été rendu par Dieu, et sans Jésus-Christ, le Verbe incarné, l'homme était incapable de se sauver. Alors beaucoup d'humilité là aussi. Tout vient de Dieu. Troisième partie du sermon, vaincre le démon et le péché. Par ce mystère, dit saint Thomas d'Aquin, l'homme apprend à n'avoir ni préférence, ni respect pour le démon. C'est très surprenant ça. Mais quand vous lisez, c'est pour ça que je fais exprès de vous le lire, quand vous lisez une phrase comme ça de saint Thomas d'Aquin, plutôt que de passer en disant « Oh, quand même il exagère » ou « Je ne comprends pas pourquoi il dit ça », plutôt que de dire « Oh, ça ne me concerne pas, moi je n'ai pas de préférence pour le démon, je n'ai pas de respect pour le démon », cherchons pourquoi saint Thomas d'Aquin, qui est un grand saint, qui est un docteur de l'Église, dit qu'il faut apprendre à n'avoir ni préférence ni respect pour le démon. Et cherchons à voir si nous n'avons pas une certaine préférence, un certain respect pour le démon. Nos contemporains, oui, c'est évident, hélas, ils ont une préférence et un respect pour le démon. Il y en a beaucoup qui vénèrent le démon parce qu'ils le voient faire des grandes choses. Mais est-ce vrai uniquement pour nos contemporains ou est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas un petit peu, disons au moins une crainte de la puissance du démon? Et non seulement le démon, mais le péché. L'incarnation est utile pour délivrer l'homme de la servitude du péché. Vous savez très bien, mes bien chers frères, que l'homme tout seul ne pouvait pas sortir du péché parce que saint Thomas d'Aquin nous dit « Le péché a quelque chose d'infini dans sa gravité à cause de l'infinie majesté de la personne offensée. » Et saint Thomas précise « Aucun homme n'aurait pu sortir qui que ce soit du péché, même l'humanité tout entière ne pouvait pas offrir à Dieu une compensation juste pour le péché, même la Sainte Vierge toute seule n'aurait pas pu, elle l'a pu uniquement parce qu'elle est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle se met au pied de la croix. Or, non seulement le péché est effacé, mais il est racheté, c'est-à-dire que Jésus-Christ a compensé pour le péché. Et je termine par la conclusion. Voici ce que dit saint Thomas. « Par ce mystère, nous découvrons toute la dignité de la nature humaine, et qu'il ne faut pas la souiller par le péché. Ce qui fait dire à saint Augustin, « Dieu nous a montré la place éminente occupée par la nature humaine dans la création, par le fait qu'il est apparu aux hommes comme un homme véritable. » Et saint Léon dit, saint Léon le pape dit aussi, « Chrétien, reconnais ta dignité, et après avoir été uni à la nature divine, ne va pas par une conduite honteuse retourner à ton ancienne bassesse. » Et vous avez l'offertoire de la messe. Ô Dieu qui avait instauré la nature humaine d'une façon si admirable, elle l'avait restaurée d'une façon plus admirable encore. Donnez-nous par le mystère de cette eau et de ce vin, etc. Cela rejoint les sermons que je viens de vous faire sur la place de l'homme dans la création. Il n'appartient pas à l'homme de définir la mission que Dieu lui a confiée, il lui appartient de l'exercer et d'être fidèle. Or, cette mission qui était à l'origine de faire briller la gloire de Dieu, elle est maintenant de faire briller la gloire de Dieu à travers la gloire du Christ, c'est-à-dire la royauté de notre Seigneur le Christ-Roi. Je ne vais pas vous faire un sermon sur la manière de servir le Christ-Roi, je ne fais que cela dans tous mes sermons sont dictés par cela, parce qu'ils suivent Mgr Lefebvre, parce qu'ils suivent saint Thomas d'Aquin. Vous montrer ce qu'est la royauté du Christ, vous faire entrer dans la royauté du Christ, vous faire travailler à la royauté du Christ, vous donner les moyens par la vertu, par tout le reste, pour étendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une des choses qui sera peut-être le plus visible à la crèche et dans la liturgie de Noël, la royauté de Jésus. Par Marie, bien sûr. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.